C'est le moment de notre rendez-vous tout de suite avec Portrait de femme. Bonjour Jacqueline Engrave et meilleurs vœux.
Oui, bonjour Odile, meilleurs vœux à vous, meilleurs vœux à toute l'équipe de Fréquence Mistral et puis bien sûr meilleurs vœux à toutes celles et ceux qui nous écoutent.
Alors aujourd'hui, c'est notre premier portrait de femme de tous les continents de cette nouvelle année 2023 et il s'agit d'une impératrice.
Il s'agit de l'impératrice de Chine, donc nous sommes en Asie, le plus grand des continents, des cinq continents du monde. Et nous allons parler de cette dernière impératrice de Chine qui s'appelle Cixi, C-I-X-I, ou Tseyi en mandchou, puisqu'elle est mandchou d'origine, T-S-E-U, trait d'union H-I. Elle est née le 29 novembre 1835 dans un clan de la noblesse mandchou de la dynastie des Qing, Q-I-N-G, une dynastie qui domine la Chine depuis 1644. Fille de petits fonctionnaires, elle a étudié avec son frère, elle est donc très instruite et cultivée, ce qui est exceptionnel pour une fille. Quand à 16 ans, son père la présente au harem de l'empereur, elle devient la concubine favorite à cause de sa beauté, certes, mais aussi de sa culture précisément, parce que l'empereur Xianpeng avait besoin d'être aidé, conseillé. Cixi sait lire et écrire, et auprès de l'empereur, elle apprend la gestion des affaires de l'État. Elle a la chance de lui donner un fils en 1856 et lorsque cet empereur meurt en 1860, Cixi est considérée comme impératrice douairière, on dirait ici régente, lorsque son fils est choisi comme héritier. À la mort de ce dernier en 1875, il a 19 ans, elle adopte son neveu Guangxu, beaucoup plus jeune, ce qui lui permet de conserver le titre de régente et donc la direction des affaires. À Pékin, ou Gugong, G-U-G-O-N-G, à l'époque, comme se nommait Pékin, elle vit dans le palais impérial dénommé la Cité Interdite. C'est une magnifique ville dans la ville interdite aux hommes quand le gong a résonné le soir, sauf à l'empereur et aux eunuques. La culture chinoise est raffinée, mais ce raffinement se manifeste aussi dans les formes de torture utilisées. De là vient la légende de cruauté de Cixi, propagée et amplifiée par les journalistes européens, chargés d'écrire que la Chine est un pays barbare pour justifier et faire approuver son invasion et le pillage de ses richesses. Sur la foi de ces écrits contestables, les Européens de l'époque s'imaginaient que tous les Chinois sont des hommes fourbes et cruels, confère l'album Tintin Le Lotus Bleu, page 43, et qu'ils jettent leurs enfants tout petits aux cochons, confère la comtesse de Ségur, Les Bons Enfants. En ce qui concerne les femmes, les Européens constataient avec effroi la pratique de la polygamie et la constitution des harems, le confinement des femmes au foyer. Mais en même temps, il découvrait les honneurs rendus à la mère du fils aîné de la famille. Tseyi ou Cixi en est l'exemple le plus récent et le plus célèbre au XIXe et début du XXe siècle. Mais quand elle prend les rênes du gouvernement en 1860, la situation de l'Empire est grave. Depuis 50 ans, en effet, les administrateurs successifs de la Chine n'ont pas vu la révolution industrielle qui se développait ailleurs, très loin, c'est-à-dire en Europe et en Amérique du Nord. Ils n'ont donc pas compris la menace que cela représentait pour leur pays. La transformation industrielle de ces pays étrangers lointains leur crée des besoins énergétiques qui vont les amener à attaquer la Chine pour trouver là de quoi les satisfaire, ces besoins. D'où toutes les guerres coloniales qui s'ensuivirent pendant les 19e et 20e siècles. Les étrangers ouvrent à coups de canon les ports de la mer de Chine pour importer l'opium, 1840. C'est le début des implantations occidentales forcées en territoire chinois. Mais Tseyi, Cixi, donc, n'a alors que 5 ans et n'est en rien responsable de cette situation qu'elle trouve en arrivant au pouvoir. Elle n'est pas fermée au progrès. Elle favorise l'électrification, le rail et découvre la photographie dans les premières années du XXe siècle. C'est une femme qui ne refuse pas le progrès technique, mais qui se méfie des soi-disant bienfaits de ce que les Occidentaux appellent, j'ouvre les guillemets, l'apport de notre belle civilisation occidentale, je ferme les guillemets, confère l'album Les Aventures de Tintin, le Lotus Bleu, page 7, paru en 1946. Son empire, parce qu'il est vaste, immense, très lourd à gérer, et parce qu'il est l'objet de toutes les convoitises étrangères, va mal. En 1860, lors de la Seconde Guerre de l'Opium, les Occidentaux sont d'une violence inouïe. Les Anglais mettent à sac le palais d'été, les Français pillent les meubles et objets précieux, la cour s'enfuit. En 1900, donc, 13 des 18 provinces sont sous la coupe étrangère. C'est pourquoi une révolte populaire éclate contre, entre guillemets, les diables étrangers, mouvement spontané appelé « guerre des boxers » ou « point de justice » en français. Tse Yi, Cixi, favorise l'assaut des insurgés lancés contre les concessions étrangères. Ce sont les 55 jours de Pékin du 20 juin au 14 août 1900. Les Occidentaux envahissent Pékin et mettent à nouveau à sac le palais d'été. La révolte est anéantie par cette coalition de pas moins de 8 pays occidentaux. Allemagne, Autriche-Hongrie, France, Italie, Royaume-Uni, Japon, Russie et États-Unis d'Amérique du Nord. Elle-même menacée, Tse Yi s'enfuit. Militairement fragile, avec une armée désuète, face à la puissance militaire des envahisseurs associés. La Chine, qui a déjà été obligée de céder aux Japonais Liaodong et Taïwan, anciennement Formose, en 1894-95, est menacée sur tous les fronts. En 1902, Tse Yi, Cixi, revient, contrainte et forcée à la cour, pour exercer un pouvoir de façade concédé par les vainqueurs occidentaux. Elle a une fin de vie pathétique, contrainte, réduite à la soumission, confinée dans une cage dorée, son palais, pendant 6 ans. Elle meurt le 15 novembre 1908, à 73 ans, quelques heures après son fils adoptif, et on ne sait dans quelles conditions, dans quelles circonstances. On pense à un double empoisonnement. Notre conclusion, Cixi semble un personnage ambigu. Les historiens internationaux nous la présentent généralement comme une despote responsable de la chute des Qing, tandis que d'autres suggèrent que ses adversaires en ont fait un bouc émissaire, alors qu'elle n'était pas plus impitoyable que les autres dirigeants des grands pays du monde d'hier et d'aujourd'hui. Et même presque progressiste vers la fin de sa vie. Par exemple, en 1902, elle a publié un édit contre, entre guillemets, les pieds bandés des femmes, rapidement annulé, il est vrai, sous la pression. Bien que la presse internationale masculine l'ait copieusement critiquée, elle est traitée d'autocrate, mesquine, cruelle et rusée par le dictionnaire Petit Robert des noms propres. Elle apparaît plutôt, selon la grande spécialiste française de la question, Danielle Elisséeff, et avec le recul du temps, comme une femme intelligente qui prit des décisions utiles à son pays tout en assurant sa propre survie, un rempart qui n'a pas tenu contre l'arrogant impérialisme armé des Occidentaux coalisés. En cela, elle a toute sa place dans notre patrimoine universel. Alors, les sources, les grands dossiers des sciences humaines numéro 49, décembre 2017, janvier-février 2018, l'article de Danielle Elisséeff, autrice de Cixi, impératrice de Chine, édition Perrin 2008, et puis la civilisation de la Chine classique de Danielle et Vadim Elisséeff, collection Les grandes civilisations, dirigée par Raymond Bloch, édition Artaud 1979, le dictionnaire Larousse, édition 2023, et le dictionnaire Petit Robert des noms propres, édition 1995. Voilà.
Alors, ces fameux pieds bandés, c'est une torture pour les femmes.
Exactement. Donc, les pieds bandés, c'est à l'aide de bandes serrées comprimant les orteils, une torture destinée à empêcher les pieds de se développer normalement pour les faire paraître minuscules. Un supplice de déformation lente et douloureuse des pieds infligées aux filles dès leur plus jeune âge, pour des raisons esthétiques, les petits pieds étant considérés comme des zones érogènes. C'est-à-dire, tout ça, c'est pour plaire aux hommes, en fait, comme d'autres formes de torture coutumières dans d'autres continents qu'on verra peut-être un jour. L'écrivaine chinoise Zheng Zhang, Zheng J-U-N-G, plus loin Shang, C-H-A-N-G, nous explique, je la cite, « La vue d'une femme trottinant sur ses pieds atrophiés était censée avoir un effet érotique sur les hommes, cette vulnérabilité manifeste provoquant chez la gente masculine des sentiments protecteurs. » Et pour la féministe Ezen, H-E plus loin Z-E-Z-H-E-N, figure du courant anarcho-féministe de 1906 à 1911, je la cite, j'ouvre les guillemets, « Si l'ancienne société faisait des femmes des jouets, le capitalisme venu d'Occident en fait aussi des outils. » Je ferme la parenthèse. Enfin, au XXe siècle, la pratique des pieds bandés est interdite en 1912 après la proclamation de la Première République. Et elle est réellement et effectivement éliminée à partir de 1949 sous la République populaire de Chine. Alors, dernière remarque, les femmes mandchoues et mongoles, elles ne pratiquaient pas le bandage alors qu'elles occupaient le sommet de la hiérarchie sociale sous la dynastie des Qing, celle de Zhuyi, celle de Cixi. Donc on peut supposer que Cixi n'avait pas subi ce supplice.
Jacqueline Engrave, merci et à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine, merci à vous.
Au revoir.
Au revoir.